fils à papa qui seront bien sûr à l'affiche de cette quatrième édition de Sa Fanfaronne Grave qui officieront ce samedi à 19h et 22h. On parle de la Maladrerie, on parle de Gravigny et cette quatrième et belle édition de Sa Fanfaronne qui arrive très vite. En parallèle, parce qu'il se passe plein de choses sur le territoire et on n'a pas de préféré, on n'a pas de chouchou chez Principe Actif. On a, si tout se passe bien, Charlotte Verger au téléphone. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Charlotte, on va donner le cadre. Hein. Toi aussi très investi sur ton territoire qui n'est pas le même, qui est celui de Ménil-sur-Iton. On parle anciennement de Danville. Ménil-sur-Iton, c'est maintenant devenu un regroupement de communes. On va davantage dans le sud de l'Eure et il se passe plein de choses aussi. Et par exemple, va arriver pour le deuxième samedi du mois un événement ô combien sympathique le soir. Tu peux nous en parler un petit peu, Charlotte, s'il te plaît?
Oui. Alors, c'est les concerts de la Halle en Seine qui sont organisés depuis 5 ans, tous les mois de juin, tous les samedis de juin. On a déjà eu un samedi plutôt réussi en partenariat avec Amar.
Tu cherches le nom du groupe, mais il est passé, c'est ça. C'est le passé, c'était la semaine dernière.
Voilà.
C'était les
Makers.
Merci.
Un groupe de Ponto de Mer, de rock alternatif, et c'était très très bien. J'étais très agréablement surprise parce que c'était assez difficile de les entendre sur le net. Et donc samedi 13 juin, on aura la joie de recevoir les Denver sous la halle de Danville.
Un très bel écrin, on peut le préciser, hein, c'est en plein cœur du bourg, avec un magnifique dôme et un lieu qui dégage quelque chose, rien qu'à lui tout seul. Hein.
Oui, tout à fait. La halle, l'emplacement existe en tant que halle depuis 1500. Cette halle-là, elle a été reconstruite en 1800 plutôt, et elle a une belle toiture, elle a une charpente magnifique. Et elle est énorme, elle fait 22 mètres de diamètre. Et du coup, on a la place pour y mettre une centaine de personnes, un groupe. Et l'avantage aussi de sa construction, c'est que le son se porte bien. Donc c'est plutôt sympathique. Elle est en plein centre d'une place, la place de la Halle, effectivement. Qui est à côté d'un café, Citadelle. Donc la Citadelle ragrandit sa terrasse. Nous, on ferme tout. Et puis, ça nous fait un endroit plutôt chaleureux. Le format est simple, mais convivial. Et ça fait un apéro sympathique, même très, très sympathique. Les gens dansent, c'est familial, il y a des enfants.
Les rendez-vous sont à quelle heure, Charlotte, s'il te plaît?
Les rendez-vous sont à 19h, tous les samedis de juin. Donc donc le 13, on a Denver. Le 20, on a Franck et Juliette Quartet, c'est plutôt du jazz.
Avec des figures hébreuciennes bien connues, Quartet. Hein.
Voilà, et puis ils sont vraiment bons, hein. Il n'y a pas à dire quand même. Et ensuite, le samedi 27, on aura Séguran, qui est vraiment du coin. Cette année, j'ai vraiment que du coin. Chanson française.
Un duo de qualité, je les connais, qui sont de Verneuil et qui sortent leur album à la fin du mois. Pour la petite anecdote, je les ai croisés pas plus tard que ce week-end à Sassonne à la Porte. Ils ont hâte d'en découdre de manière positive à Ménil-sur-Iton, à la Halle de Danville à 19h en mode concert gratuit. On peut se restaurer, la Citadelle est ouverte, on peut se rafraîchir, on est bien.
On est bien.
Un petit mot aussi sur, s'il te plaît, Charlotte, une petite minute pour donner aussi un autre rendez-vous ô combien sympathique que tu portes avec d'autres associations. C'est celui du Festiton.
Oui, celui du Festiton, donc le festival de spectacle de rue. Cette fois-ci, ça, c'est sa 10e année.
Bravo.
Et donc, ça sera le 4 et le 5 juillet, toujours à Danville, dans les rues de Danville, un peu différemment, place de la mairie et sur les étangs. La formule est un petit peu différente cette année parce que ça a été repris par l'association ASLG qui porte l'école de cirque et qui a été à l'origine du projet les trois premières années. Et donc, on a peu modifié deux trois choses mais pas grand chose, et ça reste ça reste un beau festival.
Avec de belles représentations, avec... des artistes établis. Il y a quoi? Il y a 5, 6, 8 propositions durant le week-end?
Il y en a presque 7, je crois, entre le samedi soir, donc le festival qui commence le soir, avec un spectacle d'ouverture, une fanfare, les BTP, qui sont les brailleurs de tubes populaires, on a eu le coup d'œil, voilà. D'accord. Et puis le dimanche, on a deux spectacles le matin, un spectacle 1, 2, 3, 4, et on a bien 6 ou 7 spectacles.
Bah, génial. On chope les infos comment?
On chope les infos sur Facebook, on a ouvert une page Festiton.
D'accord.
Voilà, donc bah, on peut déjà trouver là. On a les flyers vont arriver prochainement. Il y a des affiches qui sont déjà là. Voilà.
Bon, en tout cas, vous bougez le popotin, vous proposez un week-end festif et sympathique, on l'a dit début juillet, mais en tout cas samedi, il y a aussi les très classieux Denver qui sont présents à 19h à la halle de Ménil-sur-Iton, en totale gratuité, voilà, pour vous, au plus près de vous, habitants du sud de l'Eure et qui n'avaient pas l'habitude parfois de franchir les salles de concert, bah voilà, ils viennent pour vous, grâce à cette belle organisation là à l'enseigne. On a dit les Makers la semaine dernière, Denver ce samedi, Quartet dans une semaine et Ségur dans 15 jours. Merci Charlotte.
Merci Damien.
Merci beaucoup pour ce petit éclairage. Tiens, on s'écoute quelques secondes de notes de la version duo. Et en fait, là, il y aura les cuivres, il y aura les percussions et il y a de la voix. Il y a de la voix quand même chez Denver. Eh ben venez, mais venez aussi rejoindre à Gravigny, on finit avec vous messieurs, ce samedi et ce dimanche, ça fanfaronne grave, voilà, déambulation, jeu physique et visuel, c'est presque du spectacle vivant pour certaines formations, et puis après musicalement, ça va bien plus loin qu'on ne pourrait l'imaginer, soyez curieux et curieux, ça démarre à quelle heure ce samedi et ce dimanche, c'est en début d'après-midi, c'est ça messieurs?
Le samedi, donc le site ouvre à partir de 17h, donc avec les premières notes à partir de 18h, donc jusqu'à minuit, voilà. Minuit 30.
Et dimanche un peu plus tôt peut-être.
Et le dimanche, donc on ouvre à 11h avec à 11h30, bah là ça va être aussi un moment intéressant avec concert de l'Orchestre d'Harmonie d'Évreux, donc c'est 60 musiciens, enfin ça va un peu de gueule.
Ouais, s'il te plaît. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Grand Seb et Monsieur David. Bravo,
merci.
Bravo.
Un plaisir.
À la vitalité gravignaise. Je l'ai bien dit?
Exactement.
Parfait. Bravo.
Parfait.
Allez, bye bye. On est obligé de dire au revoir. Bye bye.
Il est 9h à Paris, 7h en temps universel. Merci d'écouter RFI.
Andréane Mélard.
Et on retrouve tout de suite Julien Coquelrohem pour le journal.
Et à la une, quand la confiscation des richesses naturelles alimente la violence des terroristes chez Babo Cabo Delgado, nous sommes au Mozambique pour le premier volet d'une enquête signée RFI en collaboration avec le consortium de médias Forbidden Stories. À la une également, les derniers efforts en vue d'un accord avec Téhéran, Donald Trump affiche encore une fois sa confiance après la brève reprise des hostilités entre l'Iran et Israël dans la nuit de dimanche à lundi. Le président américain a, semble-t-il, appelé Benjamin Netanyahou pour calmer le jeu, le premier ministre israélien qui marche sur des œufs avec son grand allié américain, vous l'entendrez. Dans ce journal également, le pape à Barcelone, aujourd'hui, entre la France et l'Allemagne, l'annonce de la fin du chantier du SCAF, l'avion de combat franco-allemand abandonné, et puis les grandes entreprises européennes alimentent les inégalités, c'est le constat dressé ce matin par un rapport d'Oxfam.
Passer à la loupe, le Mozambique et les violences qui le déchirent. RFI débute aujourd'hui une série d'enquêtes.
Dans le cinquième pays le plus pauvre du monde, où le régime impose un blackout de l'information, RFI mène l'enquête avec une dizaine de médias et le consortium de journalistes Forbidden Stories. Premier épisode ce matin dans le Cabo Delgado, région du nord du Mozambique, qui subit depuis près de 10 ans les attaques meurtrières des terroristes Chebab. Mais l'exploitation des richesses naturelles est aussi la toile de fond de ce conflit, avec des violations des droits humains commises en son nom et qui nourrissent aussi le terrorisme. On va l'entendre, c'est notre dossier du jour. Bonjour Gaëlle Lalex.
Bonjour.
Le Cabo Delgado est riche en pierres précieuses, en gaz naturel, en lithium et en terres rares. Il devrait être la région la plus riche du Mozambique, mais sa population reste la plus pauvre du pays.
Oui, parce que l'exploitation de ces richesses est le fait d'une toute petite élite politique liée au Frelimo, le parti au pouvoir depuis l'indépendance, en collaboration avec des investisseurs étrangers. Je vous donne un exemple. Le Cabo Delgado fournit 80% de la production mondiale de rubis. Le principal acteur de ce secteur est Montepuez Ruby Mining, une filiale du géant britannique Gemfields Limited, aussi propriétaire de Fabergé, détenue à 25% par un ancien général, cadre du Frelimo.
Montepuez Ruby Mining, qui a récemment été accusé d'exaction dans ses mines.
Oui, en 2019, Gemfields a accepté de payer plus de 6,5 millions d'euros à 273 mineurs artisanaux pour l'abandon de leur poursuite. Selon leurs avocats, ces mineurs ont subi des violences physiques, sexuelles, des traitements dégradants et des assassinats commis par les services de sécurité de Montepuez Ruby Mining, ainsi que la police mozambicaine. Selon Ali Caetano, du Centre pour le Développement et les Droits Humains, ces violences se poursuivent aujourd'hui dans la région.
Il y a des tortures, des détentions illégales, des morts. La relation entre les services de sécurité des compagnies minières et les gens est très tendue. On a des cas d'enfants impliqués dans les mines qui ont subi des abus. Tout cela fait monter la tension. Les rubis de Montepuez alimentent le discours des terroristes. Les Chebab s'en servent d'argument pour radicaliser les gens.
Car le discours des Chebab n'est pas seulement religieux, il y a aussi une rhétorique de lutte des classes. Vash Cooking est membre de l'organisation de la société civile Kundele.
Les Chebab estiment qu'ils doivent introduire la charia comme nouvel ordre social. Ils dénoncent une situation sociale marquée par le chômage et le sous-développement dans une région qui regorge de richesses naturelles. À leur arrivée au pouvoir, ils promettent une meilleure redistribution des richesses, etc., etc.
Le conflit dans le Cabo Delgado a déjà fait plus de 6500 morts et 800 000 déplacés.
Gaëlle Lalex à Nairobi pour RFI, merci beaucoup. C'est le début donc d'une enquête en 7 volets au Mozambique que vous avez menée pour RFI en partenariat avec Forbidden Stories. Votre dossier de ce matin est à retrouver sur RFI.fr, tout comme les reportages que vous avez pu tourner au Cabo Delgado ces dernières semaines.
Nous sommes dans les derniers efforts de ce qui va être un très, très bon accord.
La confiance affichée par Donald Trump, qui annonce pourtant depuis des semaines un accord imminent avec Téhéran. Les négociations fragiles entre les deux pays mises en péril dans la nuit de dimanche à lundi par les premiers affrontements entre l'Iran et Israël depuis le début du cessez-le-feu le 8 avril. Les deux camps ont finalement annoncé dans la journée d'hier la cessation pour l'heure des hostilités et Donald Trump a peut-être joué un rôle. Il a passé un coup de fil à Benjamin Netanyahou pour l'avertir notamment du risque de se retrouver isolé. Le président américain avait déjà élevé la voix la semaine dernière pour freiner l'avancée des troupes israéliennes vers Beyrouth. Le premier ministre israélien marche sur un fil dans sa relation avec Washington, bien conscient du risque de se mettre en délicatesse avec son plus précieux allié, Vincent Souriau.
Avant d'être enseignant à l'université américaine de Washington, Dan Arbel était diplomate de carrière en Israël. Quels que soient les grands discours de Benjamin Netanyahou, dit-il, à l'heure actuelle, sa politique étrangère se décide à la Maison-Blanche.
Lorsque Trump lui demande de cesser le combat, il s'exécute la plupart du temps. Et si Trump lui donne le feu vert, il reprend ses opérations. Israël a perdu beaucoup d'indépendance dans sa manière d'appliquer sa stratégie. Ce n'est pas que les relations soient fragiles, c'est que la dynamique entre ces deux dirigeants est telle que si Netanyahou ne s'aligne pas sur ce que Trump attend de lui, il s'expose à des mesures de rétorsion.
Benjamin Netanyahou, pieds et poings liés, parce que d'après Dan Arbel, le premier ministre israélien a aussi placé son propre avenir politique entre les mains du président américain.
Il espère que la pression que Trump exerce sur le président israélien fonctionne et qu'il finisse par être gracié de ses procès criminels. Netanyahou mélange les intérêts politiques d'Israël avec ses considérations personnelles. Et il est prêt à faire tout ce que Trump lui demande parce qu'il espère que Trump va l'aider personnellement et politiquement. C'est pour ça qu'il perd les leviers qu'il pouvait avoir.
En octobre, il y a des élections en Israël. Benjamin Netanyahou rêve, selon Dan Arbel, que Donald Trump le soutienne, comme il l'a fait par exemple avec Viktor Orban, et clame en public qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable pour les Israéliens. Vincent Souriau, Washington RFI.
Et le ton qui n'en reste pas moins marqué.
commercial ce matin entre l'Iran et Israël. Benjamin Netanyahou affirme qu'Israël ripostera avec force à toute nouvelle attaque iranienne et qu'il exercera son droit à se défendre chaque fois que nécessaire. Côté iranien, le commandement des forces armées prévoit des actions bien plus sévères en cas de nouvelle agression, y compris dans le sud du Liban. L'armée israélienne a continué hier de frapper le pays du Cèdre, une quinzaine de localités touchées, 14 morts, une vingtaine de blessés. Elle appelle ce matin à l'évacuation de tous les habitants de la ville de Tyr et de ses environs. Le Hezbollah a revendiqué de son côté de nouvelles attaques hier contre l'armée israélienne dans le sud du Liban.
RFI 9h07 à Paris. En France, l'affaire Liana continue de susciter la polémique.
5 jours après la découverte du corps de cette collégienne de 11 ans et alors que le principal suspect du meurtre était visé par plusieurs plaintes pour violences sexuelles sur des mineurs, sans être inquiété pour autant, le Premier ministre Sébastien Lecornu fait part de l'effroi du gouvernement et convoque ce matin une réunion avec plusieurs ministres pour annoncer de nouvelles mesures au lendemain de manifestations qui ont réuni plusieurs milliers de personnes un peu partout en France. L'exécutif toujours sous pression et Gérald Darmanin qui continue de se défausser sur l'institution judiciaire. Il ne nous a manqué ni de moyens ni de lois, a déclaré le ministre de la Justice hier. Il doit être entendu tout à l'heure au Sénat aux côtés du ministre de l'Intérieur. Lui a promis des efforts supplémentaires pour lutter contre les violences sexuelles au sein de l'Église catholique. Le pape Léon XIV, qui poursuit son voyage en Espagne après Madrid, c'est au tour de Barcelone d'accueillir le souverain pontife aujourd'hui. Avec un événement qui devrait attirer les foules, le pape va inaugurer demain la dernière tour de la Sagrada Familia, la basilique de Barcelone, dessinée par l'architecte Antoni Gaudí et en chantier depuis près de 150 ans. Les commerçants du quartier se frottent déjà les mains, Élise Gazangel.
Même si elle ne sera officiellement inaugurée que ce mercredi, la tour de Jésus est déjà visible au pied de la Sagrada Familia. Une aubaine pour Alex Ceballos, responsable d'un restaurant dont la terrasse est toujours pleine.
Ici, les gens veulent voir la Sagrada Familia, même s'il fait chaud, 40 degrés, tout le monde veut admirer le monument. Et chaque avancée de la Sagrada Familia fait que le tourisme augmente jour après jour. Tout le monde veut savoir quand elle sera finie. C'est la question à 1 million.
Quelques mètres plus loin, Juan López a lui aussi le sourire. Il installe quelques aimants à l'effigie du pape entre ses journaux et bouteilles de soda. Depuis 60 ans, sa famille gère un kiosque à journaux face à la basilique.
Ils viennent de refaire l'esplanade. Vous ne la voyez pas, mais c'est très joli. Déjà ça, c'est positif. En plus, cette année, c'est aussi l'année Gaudi. On commémore le centenaire de sa mort et donc il y a plus de gens et je dirais que le type de touriste est peut-être un peu plus culturel aussi.
Reste à savoir si le record de l'année dernière avec près de 5 millions d'entrées sera battu en cette année si spéciale pour la Sagrada Familia. Élise Gazangel, Barcelone, RFI.
Dans l'actualité également, un constat partagé, celui de l'échec d'un projet.
Lancé par Emmanuel Macron et Angela Merkel en 2017, l'avion de combat franco-allemand ne verra pas le jour. L'Allemagne et la France.
paisible, à la fraîche, décontracté du gland.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principeactif.net.
C'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça.
Merci pour la bonne nouvelle.
Principe Actif, le mix des cultures.